Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Comme chaque lundi, je reçois un invité différent et cette semaine, mon invité est...
Valérie Pierre.
Valérie Pierre. Valérie, je te connais depuis une dizaine d'années maintenant. Nous avons fondé ensemble le Lions Club de Houille Victor Schoelcher. Mais j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs avec un petit challenge sans parler de ton métier, de ton état civil. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi ?
Alors cette question, elle est difficile parce que c'est une question en fait que j'ai beaucoup préparée, notamment dans le cadre de mes études où j'ai eu beaucoup d'entretiens, de présentations à réaliser. Et donc j'ai été très entraîné à me présenter sous format « quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts ?» mais pas tellement à parler de moi. Donc en fait, je ne sais pas très bien
ça
comment
veut dire qu'on peut. Ça veut dire, Valérie, qu'on peut se cacher derrière une présentation ?
Bien sûr, en disant on se compare toujours, on se présente toujours par rapport à un cadre, en disant « je suis dans le cadre » ou « je suis en dehors du cadre » ou « je suis... » Donc j'aurais pu me présenter en disant « voilà, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, mais est-ce que c'est ça qui me définit ?» J'en suis pas certain.
Donc. En tout cas, c'est une facette de ta vie. Mm-hmm. Tu peux parler de ton métier, tu es cadre supérieur.
Voilà, hein, c'est dans une grande entreprise.
Une grande entreprise dans le domaine de l'énergie, on va dire.
Exactement.
Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui peut te définir ? Si on a envie de te connaître, est-ce que ça suffit de connaître ça ?
Je pense que c'est pas essentiel d'ailleurs. C'est pas mon travail qui me définit, heureusement. Mm-hmm. C'est plutôt mes centres d'intérêt, ma famille, mon parcours, j'allais dire. Mm-hmm. C'est plutôt ça qui me définit.
Et ton parcours, est-ce qu'il est à l'image justement des choses qui sont fondamentales et essentielles pour toi ?
Je pense que oui. C'est-à-dire mon parcours, il est très centré à la fois, enfin il a deux facettes, et à la fois il est centré sur ma famille et centré aussi sur l'ouverture au travers des gens que j'ai pu rencontrer ou des voyages que j'ai pu faire. J'ai vécu notamment assez longtemps à l'étranger et je pense que ça c'est quelque chose qui me définit. Voilà. Donc il y a un peu une double facette centrée sur la famille et centrée sur l'ouverture, voire le voyage.
Mais alors, ça me parle et ça m'interpelle parce que en ce moment je suis en train de lire un livre de mes professeurs en logique émotionnelle qui viennent enrichir aussi cette connaissance sur nos façons en effet de vivre et puis de vivre nos émotions. Et en fait nous naviguons sans cesse entre deux centres et deux objectifs, qui est l'homéostasis à la recherche d'équilibre. Je pense que peut-être que toi, c'est la famille, mm-hmm. C'est ton socle, c'est ce qui est la fondation sur laquelle tu peux construire en effet ta vie, c'est quelque chose que tu voudrais en tout cas solide. Donc ça, c'est important, mais ça ne suffit pas parce que on est aussi appelé par la vie à la croissance, on est appelé à croître, c'est-à-dire à se développer, c'est-à-dire à sortir aussi de son cadre. De son cadre qui est rassurant, mmh. et donc d'aller vers l'aventure, vers l'ouverture, vers l'autre, vers la surprise. Et peut-être c'est de ça que tu parles, en fait. C'est cet équilibre que tu as trouvé entre un socle solide et puis une volonté d'ouverture et de liberté.
Tout à fait. Alors il y a d'ailleurs, ça me fait penser à un épisode de ma vie qui est important, c'est que donc, j'ai vécu à l'étranger assez longtemps avec mes parents quand j'étais petit. Et à la fois donc j'étais à l'étranger avec des cultures différentes, mais en même temps je suis toujours resté avec mes parents, et donc il y a, tu vois, ces deux choses qui s'équilibrent, c'est-à-dire que par exemple quand je discute avec des amis ou des connaissances qui hésitent à partir à l'étranger, à déménager, à changer de vie, et souvent ils prennent le prétexte de dire bah non, les enfants, je peux pas partir, ils ont leurs amis, etc. Moi, j'ai eu cette chance, en fait, de constater que on peut partir à l'étranger tant qu'on est avec ses parents, en fait. Quelque part, on trouve cet équilibre dont tu parlais, d'être centré sur le côté rassurant de la famille et puis le côté à la fois d'ouverture que tu peux avoir quand tu es à l'étranger ou quand tu vis autre part ou autrement, quoi.
Et pour venir au fil rouge de mes émissions, qui est le bonheur. cette enfance d'un pays à l'autre comme ça, avec mais pas avec ce socle solide qui était le d'être rassuré par la présence des parents et je suppose par l'éducation, les valeurs que tes parents t'ont donné aussi à ce moment-là. Est-ce que c'est du bonheur aussi pour un enfant d'être sans cesse comme ça dans une découverte d'autres univers?
Ah, moi, je garde un souvenir extraordinaire de cette période-là. Hein. C'est quelque chose de très précieux et je garde vraiment une image très, très heureuse. Si tu m'interroges sur le bonheur, je dirais que moi, j'ai jamais été malheureux, j'ai toujours été heureux. Et cette période-là en fait partie. Enfin,
D'accord. Dans une période de bonheur. Alors, quels sont les pays qui t'ont rendu le plus heureux, finalement, dans toutes ces recherches?
Paradoxalement, c'est quand je vivais en Arabie Saoudite. Alors, on peut penser que l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément un cadre. Alors, je te dis tout de suite que ma mère a beaucoup moins apprécié le passage. Parce qu'il y avait beaucoup plus de contraintes, mais en tant qu'enfant, c'était très très bien, parce qu'en fait, on avait une vie dorée en fait à l'étranger, notamment. Alors ça c'est peut-être anecdotique, mais comme il faisait très chaud, on travaillait à l'école que le matin, et donc on avait toutes nos après-midi entre copains, donc on avait toute une bande de copains, et on avait toutes nos après-midi pour jouer, pour faire ce qu'on voulait.
Donc il y avait des contraintes différentes, mais beaucoup de liberté.
Beaucoup de liberté, oui.
Et c'était des enfants d'expatriés aussi, ou c'était aussi des enfants du
Alors,
du
là, par contre, c'était effectivement plutôt des enfants d'expatriés. On était quand même répartis par nationalité et par société, en fait. C'était des campagnes de société. Donc, mm-hmm. Du coup, on était tout le temps, on était une bande de copains, tout le temps fourrés ensemble. Les enfants, les parents ne savaient pas vraiment chez qui on était les uns chez les autres.
Voilà. Mais les parents étaient rassurés?
Mais les parents étaient rassurés, oui, parce qu'on était toujours pas, on n'était pas très loin quand même, mais donc il y avait une certaine liberté.
D'accord, un peu de surveillance quand même.
Un peu de surveillance.
Ouais, ok.
Et c'est vrai que ça reste une expérience.
Arabie Saoudite, d'autres, peut-être d'autres lieux aussi dans lesquels tu as des souvenirs de grands plaisirs d'enfant comme ça.
La Thaïlande, on a vécu à Bangkok, et ça c'était très très sympa. Alors c'était Bangkok et puis la Thaïlande avant le rush touristique, on va dire. Donc, mais ouais, c'est des très bons souvenirs aussi. Voilà, et puis un petit peu en Afrique, donc des cultures complètement différentes entre l'Asie, l'Afrique, l'Arabie Saoudite, c'est des religions et des cultures et des modes de vie complètement différents.
Ce sont des mondes différents, en fait. Hein, pourtant, on parle de planètes différentes parce que tous les repères, tous les codes, en fait, sont aussi totalement différents. L'écriture, le mode de vie, le climat. Ça m'intéresse pour l'Afrique, parce que tu sais que je suis passionné de culture africaine. Donc, tu étais où en Afrique hein?
Alors moi, je suis né au Niger, je suis né à Niamey.
D'accord.
Je suis resté petit, hein, donc c'est pas là que j'ai le plus de souvenirs. Par contre, j'ai le souvenir, mes parents ont beaucoup voyagé, même avant qu'on naisse. Après, il y a des sensibilités. Mon père était plutôt africain et ma mère plutôt asiatique.
Et donc tu dis on, il y avait une fratrie, tu n'étais pas tout seul hein?
Alors il y avait mon frère et ma sœur. Ma sœur est née en France, mais mon frère est né aussi au Niger.
Donc, d'accord, et vous avez des écarts d'âge importants ou vous êtes proches?
Mon frère, on a un an d'écart et ma sœur, on a 7 ans d'écart.
Oui, alors avec 7 ans, en plus avec une fille, c'est pas facile d'avoir les mêmes centres d'intérêt, mêmes amis. Mais avec ton frère, il faisait peut-être partie de la bande de copains, non?
Ah, il faisait partie de la bande de copains.
Ça, c'est clair. Et justement, et ton frère et ta sœur, est-ce qu'eux, ils ont ce même souvenir de bonheur d'enfance aussi, confrontés ou vivant comme ça dans ces cultures différentes? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que ça a été très personnel?
Alors, mon frère, je suis sûr que oui, puisqu'il a, il fait un métier qui l'a amené beaucoup à voyager et notamment à retourner en Afrique et notamment à retourner au Niger, à Niamey, où il est allé retrouver les registres de la clinique dans laquelle
c'est important.
Il m'avait envoyé les photos. Enfin, voilà, ça, c'est un très beau souvenir. Donc, je sais qu'il est très attaché. Ma sœur, elle, en fait, comme elle était plus âgée, elle est restée, enfin les dernières années, elle est restée en France en pension pour faire ses études. Donc c'est un peu différent.
Donc elle n'a pas eu le même vécu.
D'accord. Tout à fait.
Et donc là, on a parlé de ton bonheur de l'enfance, voilà, qui vivait dans des univers, dans des planètes culturelles différentes. Aujourd'hui, ton bonheur, à quoi il ressemble ?
Alors, mon bonheur aujourd'hui, il est très, j'allais dire, c'est un bonheur de poche, c'est-à-dire je peux l'emmener partout. C'est-à-dire qu'il est lié à des petites choses. Moi, je suis très attaché au bonheur de l'instant et des petites choses. Et en y réfléchissant, en préparant notre entretien, j'ai pensé à la fois à un livre et à un film. Le livre, c'est la première gorgée de bière, le film de l'herbe.
Et autre plaisir minuscule, voilà. Pour dire tout son titre, ouais.
Et le film, ce serait Amélie Poulain, enfin un passage d'Amélie Poulain, de Genet et Caro, où elle montre ses petits plaisirs, qui sont par exemple de plonger la main dans un sac de graines, ou de faire des ricochets sur le canal Saint-Martin avec des cailloux. Et aujourd'hui, moi, mon bonheur, c'est ça, c'est plutôt des petits bonheurs, tu vois. Ça peut être de lire un bon livre dans l'herbe avec un verre de lait ou de sentir une odeur de pot-au-feu, tu vois, des choses comme ça, très simples. Mais et c'est pour ça que je dis que c'est un peu du bonheur de poche, c'est que tu peux le trouver partout où tu vas. En fait, t'as pas besoin, tu vois, je suis pas forcément attaché à un lieu, par exemple. Autant que je suis attaché à ma famille, mais je pourrais être heureux avec ma famille partout, quoi.
D'accord. Alors, on garde le socle de la famille, le bonheur d'être en famille, et en même temps, ça me renvoie aussi encore à l'enfance, hein, quand tu parles un peu de l'odeur d'herbe fraîche, des petites sensations, finalement, c'est très sensuel, hein, de l'enfant qui est capable à tout moment de savourer le moment présent et d'être sensible à des choses que nous ne voyons plus quelquefois adultes, quoi.
Mais par exemple, je vais prendre un exemple de... Tu ne peux pas forcément penser au bonheur comme ça instinctivement. Le matin, quand je vais au bureau, je suis dans ma voiture, je suis dans les bouchons. Et ben, ça m'arrive à certains endroits, tu vois, de voir un beau coucher de soleil, enfin un beau lever de soleil, pardon, quand je vais au bureau, plutôt.
Oui.
Ça peut me mettre un petit moment de bonheur quand je suis dans ma voiture, coincé dans les bouchons, tu vois.
Ça peut égayer et ça peut transformer, du coup, un moment qui peut être plutôt désagréable en une expérience de bonheur.
Exactement.
Le bonheur transportable. Eh bien, merci Valérie. Ça veut dire aussi que tout ce bonheur, c'est quelque chose qui nous fait vibrer positivement et qui nous donne de bonnes vibrations, non ? Comme la
tout
musique.
À fait. Exactement.
Et donc, je vous propose maintenant d'écouter le morceau choisi par Valérie et on en parle juste après. D'accord ?
D'accord.
Sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. Excitations. I'm picking up good vibrations. vibrations a happening with her.
Donc nous venons d'entendre les Beach Boys avec Good Vibration. Alors ce morceau, tu l'as choisi sur quels critères ?
Je cherchais une chanson qui me mette en joie dès les premières notes. Tu sais, c'est les chansons où tu entends les trois premières notes et ça te met en joie. Mm-hmm. Et voilà, donc les Beach Boys pour moi c'est une chanson de vacances, c'est une chanson de détente, à la fois de sérénité et de joie.
Il y a de la légèreté.
Voilà,
on a besoin de cette légèreté aussi. Ouais. Environné dans un monde qui peut être dur, qui peut être anxiogène. Je ne parle même pas de la situation sanitaire actuelle qui fait qu'on navigue dans un brouillard d'incertitudes et pas toujours très agréable. Et voilà, cette légèreté nous fait du bien, c'est voilà. Ça.
On a besoin des bonnes vibrations.
Et oui, de bonnes vibrations, parce qu'en fait, tout est vibration, la lumière est vibration, et l'amour est vibration, bien sûr. Donc, je pense que le bonheur, c'est une bonne vibration, c'est une vibration positive qui nous amène à la joie et qui nous amène aussi à l'ouverture. Et donc, mais tu avais hésité entre deux titres, en fait. Hein.
Oui, alors j'avais hésité avec un autre titre qui est The Sound of Silence de Simon Garfunkel. Qui est alors là c'est de plutôt de la sérénité, mais de la sérénité plutôt consolation. Mm-hmm. C'est de la joie, mais plutôt de la joie intérieure et de l'apaisement. Et c'est la bande, enfin ça fait partie de la bande originale d'un film qui s'appelle The Graduate. Yeah. Avec Dustin Hoffman,
le lauréat en français.
Le lauréat, exactement, et qui est un film que j'aime beaucoup. Et il y a C'est une chanson qui parle du ressourcement intérieur, de la joie intérieure, en tout cas du bonheur qu'on peut avoir ou du refuge qu'on peut trouver dans le silence, le refuge intérieur.
Voilà. Eh bien, chers auditeurs, comme il hésitait notre amie Valérie entre les deux titres, donc le titre de Simon Garfunkel sera en effet le titre qui va clore cette émission à la place de celui de ma playlist, mais il me convient très bien, hein, bien sûr. Tu as besoin de moments de silence dans ta vie ?
Oui, alors c'est un peu mon luxe, le moment de silence. Et alors j'ai deux occasions pour le provoquer. C'est d'abord la lecture, parce que j'aime beaucoup la lecture, et puis la course à pied. Je cours beaucoup. Je devrais courir plus, mais j'essaye au moins une fois par semaine. Et c'est un moment de silence et c'est assez paradoxal, mais pour moi c'est quasiment de la méditation d'aller courir. Et souvent les gens me demandent, mais tu penses à quoi quand tu cours ? Et je dis, je ne pense à rien. Justement, je ne pense à rien. Et ça me permet de rebondir sur The Sound of Silence. Donc ça me permet de recharger mes batteries, à la fois physiquement, évidemment. Mais aussi mentalement, parce que c'est un moment qui m'appartient et pendant lequel je ne pense pas, et qui me permet de ressourcer mes batteries.
Ça doit aussi renforcer tes batteries émotionnelles aussi.
Oui, tout à fait.
Parce que ça sert à apaiser aussi ces émotions, à les réguler. Et probablement que ça recharge aussi ta batterie spirituelle. Il y a dans la course à pied une forme d'ascèse aussi, une forme de connexion à quelque chose de plus grand que soi.
Oui, et il y a une forme d'inutilité aussi, parce que quelque part, si tu veux, on court. Hein, pourquoi est-ce qu'on court ? C'est toujours d'ailleurs ceux qui ne courent pas te posent la question. Ils disent, mais tu cours après quoi ?
Voilà. Donc c'est bien métaphysique aussi.
Voilà, on pourrait même dire c'est une forme d'échappatoire. Tu ne penses pas, mais il se passe plein de choses.
Et ça fait du bien.
Tout à fait.
Alors, on arrive à une séquence aussi là qui est... Est-ce que parmi les questions auxquelles tu t'attendais que je te pose, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ?
Il y a une question, j'allais dire assez classique, c'est « et si ?» Et si tu avais... si tu étais quelqu'un d'autre, ou si tu avais eu une autre vie, qu'est-ce que tu aurais fait ? Qu'est-ce que tu aurais été ? Est-ce que tu aurais fait autre chose ? Voilà.
Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu répondrais à cette question ?
Je changerai pas grand chose parce que j'ai aucun regret ni j'ai rien à changer dans ma vie. Je changerai peut-être mon métier, mais comme on a dit que ce n'est pas ce qui me définissait, c'est pas bien grave.
Ça occupe quand même une grande partie de notre vie. Alors voilà. Et si tu avais fait un autre métier, ce serait lequel ?
J'aurais été libraire.
Libraire, c'est intéressant.
Mais rien n'est perdu. Hein.
Qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que bon, j'en ai connu qui se sont reconvertis dans des moments de rupture professionnelle, par exemple, dans des moments de rupture de vie aussi. Il y a des moments, ce qu'on appelle l'individuation, une crise du milieu de vie, où j'en ai connu qui ont profité à un moment donné voilà, d'une opportunité pour passer de cadre supérieur dans le domaine des automatismes à libraire ou à être patron d'un hôtel, ou etc. Donc ce sont des choses qui sont toujours possibles, mais parce que les livres, c'est important pour toi.
Parce que les livres, c'est très important pour moi. Donc après, j'ai conscience, c'est pas forcément, c'est un espèce de fantasme comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que entre aimer les livres et travailler dans les livres, c'est quand même deux choses différentes. Donc quand on pousse la réflexion plus loin, je me dis que avoir les livres comme je les aime aujourd'hui, c'est peut-être mieux de les garder comme ça plutôt que de travailler dans les livres. Je pense que ça change la relation au livre.
Et on va passer dans la petite séquence surprise, qui est en fait un mot du bonheur. Donc ici, il y en a une centaine dans mon petit jeu des mots du bonheur que j'ai créé. Je te laisse choisir une carte parmi toutes celles-ci. Et tu vas nous lire quel est ce mot du bonheur.
Le mot vie.
Vie. Alors, en quoi la vie fait écho avec la notion de bonheur chez toi?
Ce que je peux dire, pour moi, le bonheur fait partie de la vie, heureusement. Mais la perception du bonheur évolue avec la vie. Enfin, j'allais dire,
d'accord.
C'est une question qu'on n'a pas abordée, mais quand tu m'as parlé du bonheur quand j'étais enfant, etc., et le bonheur maintenant, j'allais dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été malheureux. Je pense que j'ai toujours été heureux avec les moments difficiles que tu peux avoir dans une vie classique, j'allais dire. Mais j'ai plus conscience du bonheur aujourd'hui que quand j'étais enfant. Le bonheur n'a pas changé, mais c'est ma perception du bonheur qui est différente.
Le bonheur n'a pas changé, mais ta perception est différente. Ou le bonheur a évolué avec toi et aujourd'hui tu en as beaucoup plus conscience.
Je pense que le bonheur n'a pas évolué, mais c'est peut-être ma perception qui a changé. Je pense que tu as toute une phase de ta vie où tu construis ta famille, tu construis ton métier, etc. Et bon, tu es heureux, hein, tu n'es pas malheureux, mais j'allais dire que le bonheur, c'est un peu pour après. Que tu passes, je vais pas jouer au vieux, hein, mais où tu passes un moment où tu dis, le bonheur... c'est maintenant, c'est le bonheur de poche dont je parlais tout à l'heure,
oui.
C'est-à-dire de prendre conscience que le bonheur, ça peut être des petites choses. Il y a grands bonheurs et puis il y a les petits bonheurs. Et en fait, quand tu es enfant, tu es heureux, tu vis le bonheur parce que tu es avec tes parents, parce que tu es à l'étranger, mais tu ne te poses pas trop la question. Alors que, donc le lien entre le bonheur et la vie, c'est... Je pense que ta perception du bonheur, elle évolue en fonction de ton âge et de ton parcours.
Il y a un moment où on prend la conscience de soi et on est capable de mesurer ce bonheur, en fait. C'est
exactement.
Ça, hein? Ok. Alors ça nous amène tout naturellement vers le conte que j'ai choisi et que je te propose d'écouter pour clore cette émission. Selon une vieille légende indienne, une souris était constamment angoissée en raison de sa crainte du chat. Un magicien eut pitié d'elle et la transforma en chat. Mais alors, elle se mit à avoir peur du chien. Le magicien la transforma en chien. À ce moment, elle se mit à avoir peur de la panthère. Et le magicien la transforma en panthère. Sous cette forme, elle eut grand-peur du chasseur. Dans ces conditions, le magicien abandonna. Il retransforma l'animal en souris et lui dit « Rien de ce que je fais pour toi ne pourra t'aider, puisque tu as le cœur d'une souris. » Je te laisse à la réflexion. Je vais me dire un grand silence de Valérie, ainsi que nos auditeurs. Et donc, on va clore cette émission. Donc, c'était Jean-Marie Marcos avec Valérie Pierre pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager son titre de sa playlist du bonheur, le deuxième. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, on le dit ensemble, soyez heureux.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing silence. And the people bowed and prayed.